Bon début de matinée, il est 6h10. Votre invité sur Europe 1, Julien, est enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes.
Bonjour Patrick Martin-Jeunier.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin pour nous aider à décrypter ce qu'il se passe outre-Manche, le Royaume-Uni où, 2 ans après sa large victoire aux législatives, le Premier ministre Boris Johnson traverse une grosse zone de turbulence, cliché le montrant lui et ses collaborateurs en train de faire la fête pendant les confinements de l'année dernière, affaires de corruption et de mauvaises pratiques. Et puis dernier événement en date, la démission fracassante d'un homme clé de son gouvernement, David Frost, le secrétaire d'État chargé du Brexit. Patrick Martin-Jeunier, est-ce qu'à ce rythme, Boris Johnson va passer Noël au 10 Downing Street ?
Écoutez, ça va être très difficile car, comme vous le dites, il accumule toute une série de difficultés, de scandales, les uns derrière les autres. La difficulté, c'est qu'il n'a plus aucune autorité politique, aucune autorité sur le Parti conservateur et même sur le gouvernement. La difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup souhaiteraient se débarrasser de Boris Johnson, mais on est dans une situation sanitaire extrêmement délicate, difficile, et donc beaucoup hésitent, on va dire, à lancer une nouvelle compétition pour le poste de chef du Parti conservateur. Et donc de Premier ministre. Mais il est vrai qu'à tout moment, il pourrait être contraint de quitter Downing Street.
Pour en revenir à la démission de David Frost, c'est un gros coup dur pour Boris Johnson parce que c'était déjà un ministre populaire et puis surtout il incarnait la ligne, on va dire, d'un Brexit dur, ce qui a été promis aux Britanniques il y a 2 ans.
Oui, tout à fait. Disons que c'était un homme clé du dispositif gouvernemental. C'était lui qui avait négocié, rappelez-vous, le Brexit, l'accord sur le Brexit. C'est lui qui négociait qui souhaitait revoir complètement de fond en comble le protocole sur l'Irlande du Nord. Et en effet, c'était quelqu'un qui avait une position extrêmement ferme, extrêmement dure. Il souhaitait suspendre unilatéralement le protocole d'Irlande du Nord, le fameux article 16. Et il avait en cela le soutien des unionistes, des protestants nord-irlandais. Et le fait qu'il parte, quelqu'un qui connaissait parfaitement les dossiers, qui étaient partisans d'une ligne politique très dure. C'est vraiment un coup majeur pour Boris Johnson, un coup très dur pour lui-même et il pourrait avoir du mal effectivement à s'en relever.
Et d'ailleurs, dans sa lettre de démission, David Frost invoque la direction prise par Downing Street. C'était une remise en cause assez claire du leadership de Boris Johnson, hein.
Oui, complètement. Certains disent qu'il pourrait éventuellement se positionner comme futur Premier ministre. Il est contre la politique de Boris Johnson. Il estime que Boris Johnson a échoué, notamment sur le fait de réinvestir dans les circonscriptions qui avaient besoin d'argent et dont on avait promis de l'argent. Et puis, également sur les mesures privatives de liberté et enfin la hausse des impôts. Donc, c'est carrément tout le projet politique de Boris Johnson qui est en cause. Et c'est quelqu'un qui pourrait avoir une grande influence dans le cadre d'une nouvelle compétition pour le poste de Premier ministre.
Donc Boris Johnson s'est aliéné, on va dire, l'aile dure des Tories, des conservateurs. Il pourrait donc faire l'objet d'un vote de défiance de son propre camp dans les jours qui viennent ?
Écoutez, en tout cas, il n'a plus aucune autorité politique puisque, rappelez-vous, la semaine dernière, son fameux plan B de restriction des mesures anti-Covid, une centaine de députés conservateurs ont voté contre le gouvernement. Son plan n'a été adopté que grâce au Parti travailliste. Donc, en effet, à tout moment, ce qu'on appelle les députés de base du Parti conservateur, le fameux comité 1922, pourraient éventuellement lui dire de quitter Downing Street et d'introduire une nouvelle procédure de compétition pour le poste de Premier ministre. Encore une fois, la seule réserve sur ce point, c'est la situation sanitaire et c'est pourquoi les membres du Parti conservateur, les députés, hésitent pour l'instant à exiger sa démission. Mais les scandales sont tels et s'accumulent les uns derrière les autres qu'ils pourraient effectivement être obligés de partir très rapidement.
Et puis, le régicide, on va dire, est dans l'ADN des Tories. On l'a vu il y a 2 ans avec Theresa May. Ils n'hésitent pas à couper la tête de leur Premier ministre.
Oui, tout à fait, Theresa May. Ce fut le cas de Margaret Thatcher, c'était le cas de Theresa May. Ça pourrait être le cas, effectivement, de Boris Johnson. C'est une procédure spécifique au Parti conservateur. Même lorsque ce parti a largement remporté les élections, ce qui avait été le cas de Margaret Thatcher et ce qui a été le cas de Boris Johnson, rappelez-vous qu'il a remporté haut la main les élections législatives avec plus de 80 sièges d'avance, effectivement, même dans ce cas-là, il pourrait être obligé de partir, d'autant que les sondages donnent aujourd'hui le Parti travailliste devant le Parti conservateur dans le cas d'élections législatives anticipées.
Alors vous l'avez dit précédemment, il y a un facteur très important, c'est la crise sanitaire au Royaume-Uni, littéralement submergée par le variant Omicron, plus de 90 000 contaminations par jour et des projections alarmantes qui font état de 6 000 morts par jour fin janvier si rien n'est fait d'ici là. On parle donc d'un confinement outre-Manche. Ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Boris Johnson que les mesures se durcissent? Est-ce que ça lui ferait gagner du temps?
Je pense que politiquement, il est en situation difficile parce que le Parti conservateur ne souhaite pas de nouvelles mesures restrictives de liberté. Et sur ce point, on voit bien qu'il y a beaucoup de députés qui sont en opposition, notamment David Frost. Donc sur le plan politique, ça risquerait de le mettre encore plus en difficulté. C'est pour ça d'ailleurs qu'hier, le gouvernement s'est réuni pendant 2 heures. Et pendant cette réunion, rien n'a été décidé. Oui. Boris Johnson a donné une conférence de presse en disant que pour l'instant, il y avait pas de mesures restrictives de liberté, il n'y avait pas de confinement. En revanche, il se réservait la possibilité de prendre toute mesure d'ici Noël. Autant vous dire, la situation est vraiment incertaine aujourd'hui au Royaume-Uni.
Donc en fait, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une bataille politique en jeu sur les questions sanitaires. C'est-à-dire qu'on est en train de jouer avec des vies pour une question de tambouille politique interne chez les Tories.
Écoutez, je ne sais pas si on joue avec les vies, mais Boris Johnson est parfaitement conscient que le Parti conservateur et cette fameuse centaine de députés qui ont voté contre lui sont contre de nouvelles mesures, car il y a véritablement un sentiment de protection des libertés. Les Britanniques n'en veulent plus, ils n'en veulent d'autant plus que Boris Johnson lui-même a rompu ces fameuses règles de prudence, de distanciation. Et donc, il n'a plus de crédibilité pour imposer ces mesures. Mais en effet, il y a une bataille politique derrière cette situation.
Et très rapidement, est-ce que c'est un Boris Johnson fragilisé? C'est une bonne nouvelle pour l'Europe et la France particulièrement visée ces derniers temps par Londres?
Est-ce que c'est une bonne nouvelle? En tout cas, il faudrait savoir par qui il serait remplacé. Son gouvernement est composé essentiellement de gens qui sont partisans d'une ligne politique très dure. Mais en effet, si Boris Johnson devait être remplacé, on pourrait envisager une personnalité qui soit peut-être plus souple sur le plan des accords avec l'Union européenne. Mais au sein de ce gouvernement, les ministres sont véritablement à son image. Donc on ne voit pas bien qui pourrait remplacer Boris Johnson aujourd'hui.
Merci beaucoup Patrick Martin-Genier d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je donne le titre de votre dernier ouvrage, L'Europe a-t-elle un avenir ? C'est aux éditions Studirama. Très bonne journée et bonne fête à vous.
Merci, vous aussi.